Wins 100 points out to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Bon mardi qui a les apparences d'un lundi. Hein? On débute notre semaine. Retour à la programmation normale sur les ondes de choix 98.1 Radio X à 19h presque une minute. Sans plus tarder, on lance cet épisode qui, non, effectivement, ne sera pas la thématique du lundi, mais bien celle du mardi. Et pour se mettre directement dans le bain, voici une petite bande-annonce.
Je m'appelle Bob Wilton. Je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique.
Un guerrier Jedi.
J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie.
Nous devons rêver une nouvelle Amérique. Vous allez devenir des arbres télépathiques. Faut du ressenti. Nous devons créer des moines guerriers et basse muraille. Nous devons voir l'avenir.
Félicitations, Scotty. Merci, désolé que ça finisse mal entre vous.
Qu'est-ce que vous faites?
Je déchire les nuages. Je dois m'entraîner.
Disparu.
Vous aviez tout le désert comme route, Lynn.
Merci de nous avoir pris en stop.
Comment on va faire pour se défendre sans armée?
On est des Jedi. On ne doit pas se battre avec des armes, mais avec le mental.
C'est quoi ce délire?
J'étais parti faire un papier, mais mon ami Lynn m'a fait vivre une aventure.
N'ayez pas peur, on est américains, on vient vous donner un coup de main!
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois que je viens d'écraser.
Le lieutenant-colonel Django a puisé dans nos fonds secrets pour payer les services de prostituées.
C'est un mensonge!
Et acheter de la drogue pour ses hommes et pour lui-même.
Cette histoire de pute est franchement mensongère.
Bonsoir Christian.
Bonsoir Camille.
J'espère que t'as passé un bon et long week-end. Et d'où vient cette bande-annonce? De quel film est-ce tiré? Et où emmènes ce soir?
Voilà, on vient d'entendre la bande-annonce du film. Le titre original était « The Man Who Stared at Goats ». En français, le film a été commercialisé sous le titre « Les hommes qui regardent les chèvres ». Qui est une traduction littérale du titre anglais. En France, le film a été traduit sous le titre « Les chèvres du Pentagone ». Donc, c'est un film de 2009. Ça met en vedette George Clooney, Ewan McGregor et Jeff Bridges. Et l'histoire tourne autour d'un commando d'officiers, des militaires américains qui font partie d'un programme ultra secret qui fait de l'espionnage en utilisant une faculté psychique qui s'appelle le remote viewing, la vision à distance. Donc à partir d'un lieu X ou Y, ces gens sont capables de projeter, semble-t-il, leur pouvoir, leur vision dans un autre lieu, voir ce qui s'y passe et bien sûr fournir de l'information stratégique à propos de ça.
OK.
Ce qu'on vient d'entendre, donc, c'est la bande-annonce du film de 2009. C'est un film qui est une comédie, tu l'as bien compris par le ton.
Et oui.
on se moque abondamment de cette histoire-là parce que elle est basée sur une histoire vraie.
Oh.
Et effectivement, le département de la Défense aux États-Unis avait mis sur pied une unité spéciale de gens, principalement sélectionnés parmi les militaires, pour faire de l'espionnage psychique, donc en utilisant leur pouvoir surnaturel de vision à distance pour pouvoir fournir de l'information stratégique. Cette histoire-là n'a pas été connue en son temps, mais lorsque l'information, bon, faut quand même le dire, il y avait des rumeurs qui circulaient, mais quand l'information a été révélée publiquement en 1995, l'histoire a suscité énormément d'intérêt, d'où la bande du film, en fait le canevas du film, Les hommes qui regardent les chèvres, basé sur ce projet qui portait le nom généraliste de Stargate. Donc on va parler de ça ce soir. C'est un momentum dans l'histoire de la parapsychologie, un incontournable. Donc, pour se mettre dans le bain, on a entendu la bande-annonce. Et je te dirais que la première fois où, sans le savoir, les gens ont entendu parler du projet Stargate, sans savoir que c'est un projet, c'est le 28 janvier 1982. Les journaux du monde entier ont annoncé la libération du brigadier général James Dozier. Dozier était un militaire américain qui était en poste à Vérone en Italie. Et en décembre, il avait été enlevé par les Brigades Rouges, un groupe d'anarchistes italiens. Et Dozier a été gardé pendant 42 jours. Et puis, le 28 janvier 1982, il est libéré et on apprend dans la presse internationale que, bon, après 42 jours de détention, Dozier a été libéré. Évidemment, tout le monde est bien content du dénouement pacifique de cette histoire-là. Et puis, on souligne le travail des policiers italiens, les carabinieri. Et on se dit, ben voilà, quel beau travail d'enquête. Et on apprend à travers la presse que les policiers ont été guidés vers l'endroit où était détenu le général Dozier, le brigadier général Dozier, nommé plus tardivement général. Et on avait donc été guidé à partir d'une information qui provenait des services de renseignement américains. Donc, on s'est dit, ben voilà, la police, les autorités italiennes ont bénéficié de cette information. Donc, on a supposé que c'était soit quelqu'un qui avait infiltré les Brigades Rouges, un groupe anarchiste, ou bien quelqu'un, un espion, avait entendu des éléments ou avait eu un individu, un délateur, qui avait parlé de cette histoire-là. Il faudra attendre 13 ans. En 1995, avec la publication des documents sur le projet Stargate, pour découvrir que l'information avait été transmise aux policiers, aux autorités italiennes, à partir d'informations transmises par les voyants, les psychiques, les sensitifs, peu importe le nom qu'on leur donne, qui travaillaient pour le département de la Défense.
Ça, c'est spécial, hein? Tu dis ouais. Des voyants, département de la Défense. Dieu sait que on a parlé dans des précédentes émissions des budgets faramineux du département de la Défense.
De la Défense, oui. Ben, écoute, on va regarder un peu l'historique de ça. Hein? Donc, en 95, on apprend que, oui, il y avait une unité spéciale de gens, de voyants, qui travaillait pour le département de la Défense. En fait, pas uniquement pour le département de la Défense, mais pour différents services de renseignement américains, dont bien sûr le département de la Défense, mais il y avait également la CIA, la NSA, puis la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency. C'est un peu comme une CIA, mais qui travaille pour le département de la Défense. Donc, tous ces organismes-là faisaient appel à cette unité spéciale. Donc, on apprend son existence en 1995, mais on avait quand même des rumeurs. Hein? Donc, depuis les années, fin des années 50, début des années 60, il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient et qui ont probablement alimenté au départ l'intérêt des services de renseignement américains. À la fin des années 50, début des années 60, il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient en provenance de l'Union soviétique. Donc, on disait, il faut se rappeler que c'était l'époque de la guerre froide, donc ce bras de fer qui se jouait entre les Américains et les Soviétiques à plusieurs niveaux, autant sur l'armement, la conquête de l'espace, le développement technologique. Donc, c'était vraiment une course vers le meilleur, hein, le nec plus ultra. Et on apprend du côté des Soviétiques, hein, c'est une rumeur. Donc, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ce sont des fuites? On l'ignore. Mais on apprend que les Soviétiques seraient à travailler sur des armes psychotroniques. Donc, qu'est-ce que c'est une arme psychotronique? C'est une arme, comme une bombe, par exemple, mais sans véritable détonateur. On ferait appel à des sensitifs, on va les appeler les sensitifs, mais bon, si dans mes mots, j'utilise le mot médium, là, parce que généralement, dans le langage spécialisé, on va utiliser le mot médium pour définir quelqu'un qui parle avec les défunts, hein, autour d'une table, là, on parle, on communique avec les morts, on passe à travers un médium. Mais ces individus, dans le langage parapsychologique, ces individus qui sont doués de facultés extraordinaires, qu'on mettra entre guillemets, ben ces gens-là, on les appelle les sensitifs. Donc, ils ont des sens mieux développés apparemment que le commun des mortels. Donc, on apprend que les Soviétiques travailleraient à des armes psychotroniques, donc des bombes, par exemple, mais sans détonateur. Le détonateur serait en fait un sensitif. Donc, quelque part, on place une bombe sans détonateur, donc qui apparemment est inoffensive. Et puis, quelqu'un, quelque part, avec ses pouvoirs psychiques, va réussir à déclencher la bombe à distance. Donc, c'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'un gars qui va se faire sauter avec la bombe. Là, donc, on parle de ça. Donc, l'idée de développer des armes psychotroniques, ça va plus loin que ça, mais je te donne un exemple assez simpliste des armes psychotroniques. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur des espèces de pistolets laser, le rayon de la mort. Bon, écoute, on avait à peu près de tout puisé dans la science-fiction. Et on parlait également qu'en Union soviétique, on s'intéressait beaucoup au phénomène de la parapsychologie. Bien sûr, aux États-Unis, on s'y intéressait aussi. Il faut dire que la parapsychologie expérimentale, puis je l'ai évoqué à quelques reprises dans des émissions passées, est née aux alentours de 1920 aux États-Unis sous l'égide d'un type qui s'appelle J.B. Rhines, Joseph Bank Rhines, et ça s'inscrivait dans une continuité du mouvement spirit qui était apparu là quelques décennies plus tôt, encore là aux États-Unis. Le mouvement spirit est né en 1848 aux États-Unis, a gagné le monde. On a commencé à s'interroger sur l'acuité de ces communications. Et c'est comme ça qu'en 1920, Rhines va mettre sur pied va délaisser le mouvement spirit pour dire, ben, au-delà des communications avec les morts, est-ce qu'on est doté, est-ce que les humains ont des habiletés particulières, puis est-ce qu'on peut documenter ça? Et c'est comme ça que la parapsychologie expérimentale apparaît. Donc, on est au tournant des années 1920. Aux États-Unis, on crée la parapsychologie. Donc, on connaît ces phénomènes-là. Ils sont étudiés. Certains sont pris très au sérieux, d'autres un peu de façon cocasse. Hein? Puis il y a toujours, bien sûr, toute cette faune ésotérique, mystique de gens qui racontent qu'ils sont en contact avec des anges, avec des guides spirituels, extraterrestres.
Hyper sensibles, ces gens-là, est-ce qu'on les dit hypersensibles ou de
vraiment d'un don? Donc, ce sont... Il y a tout un débat autour de ça. Hein? Okay. On se fera à un moment donné une émission sur l'évolution de la parapsychologie, même pour te citer. Dans les années 60, on utilisait des surdoués, hein, donc des gens qui étaient capables, par exemple, on se fera une émission sur un type en particulier qui mérite à lui seul une émission, un type qui s'appelait Ted Serios, qui lui était capable, semble-t-il, d'imprimer sa pensée sur de la pellicule photo. Donc, on prenait par exemple en laboratoire un appareil, un Polaroid, on lui donnait à Serios et là on lui disait, OK, concentre-toi sur la Tour Eiffel. Alors, Serios pensait à la Tour Eiffel, prenait l'appareil photo et là, il disait, il le tenait dans ses mains et là, à un moment donné, après quelques instants, pesait sur le déclencheur, la photo sortait. Puis même si c'était embrouillé, ben, tu pouvais deviner les contours de la Tour Eiffel. Donc, il y avait comme projeté, semble-t-il. Évidemment, il y a toutes sortes d'accusations, de fraude, de manipulation. Je rentrerai pas dans ce sujet-là ce soir. Mais à lui seul, Ted Serios était ce qu'on appelait un sourdoué du psy. Et vrai ou non, semble-t-il, il était capable d'imprimer sa pensée sur de la pellicule photo. Okay. La problématique avec les surdoués, il n'était pas le seul, hein? D'autres individus ont été étudiés de cette manière-là. Je pense par exemple à Uri Geller, Matthew Mannings. Donc ces gens-là ont été étudiés en laboratoire. La problématique de ça en parapsychologie, c'était qu'il était impossible de reproduire ces phénomènes-là dans d'autres laboratoires. Donc on avait le beau jeu pour dire, ben c'est pas vrai, parce que moi je l'ai pas étudié, tu comprends? On peut pas le reproduire à volonté en laboratoire. Ce qui était à l'époque, aujourd'hui c'est moins vrai, mais ça demeure encore un des grands éléments de la science. Il faut qu'un phénomène soit reproduit pour être reconnu et reproduisible dans des conditions rigoureuses qui permet de répéter l'expérience. Donc, la problématique avec les surdoués du psy, c'est qu'ils n'étaient pas toujours disponibles. Donc, le laboratoire A faisait une expérience avec Ted Serios, obtenait des photographies qui étaient très convaincantes, des photos de sa pensée. Et là, tout d'un coup, le laboratoire B disait, ben moi, je veux refaire les mêmes expériences avec Ted Serios pour voir si c'est vrai. Mais là, Ted Serios, lui, ça y tentait peut-être plus, tu sais. Il disait, ben là, moi, j'ai un petit voyage de pêche à faire, tu sais. Puis à un moment donné, très rapidement, ce qu'on avait constaté en laboratoire, puis là, je prends pas position, c'est-tu vrai, pas vrai, il y a toutes sortes de débats là-dessus. Mais ce qu'on avait constaté en laboratoire, c'est que plus les super Les super sensitifs étaient impliqués dans des expériences. Il y avait comme une espèce de lassitude qui apparaissait, et ces gens-là devenaient moins performants. Donc, après quelques jours à faire des expériences en laboratoire, c'était un peu, je commence à m'en foutre royalement. Et là, plus on s'en foutait royalement, hein, je parle de la position du sensitif, plus il s'en foutait royalement parce qu'il était écœuré, ben moins il performait. Donc, on avait tout un problème avec ça. Et il y a un principe en parapsychologie, mais en fait, une école de parapsychologie qui s'est dit, ben peut-être que ces habilités-là, on les a tous. Hein, c'est un peu comme chanter. On est tous capables de chanter.
Il suffit de le développer.
Ça ne veut pas dire qu'on va tous chanter comme Céline Dion ou Elvis Presley, mais on est tous capables de chanter. Alors, on s'est posé une école de pensée en parapsychologie qui a dit, ben, délaissons les surdoués du psy et faisons des recherches avec monsieur et madame tout le monde. Si on obtient des résultats positifs avec un groupe donné, par exemple, des hommes, des femmes entre, mettons, je ne sais pas moi, 30 et 45 ans, puis on fait des expériences avec eux, ben, ce groupe témoin, ce groupe utilisé peut être reproduit n'importe où, dans n'importe quelle université. On prend un échantillonnage d'hommes, de femmes âgés entre 30 et 50 ans pour faire la même expérience. Donc, il y a une école qui s'est dirigée vers ça. Mais on pourra reparler de ça parce que c'est assez complexe, puis c'est fascinant de voir comment ça a évolué. Mais à l'époque, hein, je nous ramène dans les années 50, donc on parle de ces recherches menées en laboratoire du côté de l'Union soviétique avec des super sensitifs. Et là, soudainement, fin des années 50, début des années 60, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est une fuite? Quoi qu'il en soit, il y a des films qui commencent à circuler, et l'un d'entre eux, par exemple, je dis un d'entre eux, mais c'est plusieurs films, avec un seul et même sujet, une ménagère de Leningrad qui s'appelle Nina Kulagina. Et on peut facilement retrouver ça sur, si vous tapez sur YouTube Nina Kulagina, vous allez voir les fameux films en question, donc tournés dans les fins des années 50, début des années 60, et ça va même jusqu'au tout début des années 1970. Des parapsychologues soviétiques faisaient des expériences avec cette femme qui était une surdouée du psy. Donc, sur les images, on la voit, par exemple, se concentrer sur des petits objets qui sont devant elle, par exemple, une salière, une poivrière, des allumettes, et en se concentrant, elle réussit à déplacer ces objets-là. Donc, ça semble de la télékinésie, donc le pouvoir de la pensée sur la matière et le déplacement de la matière. Donc, ces films ont commencé à circuler aux États-Unis fin des années 50, début des années 60, ce qui venait confirmer la rumeur que les Soviétiques, si on ne tombait pas dans le jeu de la propagande, bien sûr, ça confirmait l'idée que les Soviétiques s'intéressaient à la parapsychologie et que ces rumeurs à propos des armes psychotroniques n'étaient peut-être pas de la fantaisie. Alors, peu à peu, tout ça a gagné en intérêt au sein des autorités militaires. Et je te dirais, là, fin des années 60, début des années 70, on avait déjà mis d'un côté des expériences qu'on a appelées le projet MK Ultra sur le lavage de cerveau, oui. Conditionnement psychique, on en a déjà parlé à l'émission. Et parallèlement à ça, un autre groupe de gens qui travaillaient pour les services de renseignement, de différents services, hein, comme je l'ai mentionné, la DIA, la CIA, la NSA. La NSA, c'est la National Security Agency, qui est l'organisme le plus secret des États-Unis. Et même, je te dirais que dans les années 70, quand les gens parlaient la NSA, on disait, bon, la NSA faisait le National Security Agency, mais les autorités répondaient « no such as agency hein? ». Il n'existe pas de telle organisation.
Okay.
Il a fallu vraiment attendre les années 80 pour qu'officiellement, on reconnaisse l'existence de cette unité spéciale de renseignement encore plus haut et plus secret que ne l'est la CIA, qui était la NSA, la National Security Agency. Donc, ces différents organismes, fin des années 60, ils sont là, ils s'intéressent à ce qui se passe du côté de l'Union soviétique. Il y a toutes ces rumeurs qui les intéressent. Et alors que la CIA s'intéresse de plus en plus au lavage de cerveau, le conditionnement psychique avec des expériences comme le MK Ultra, d'autres agences du renseignement se disent, est-ce que il y a quelque chose de vrai dans ces histoires de pouvoir psychique, de clairvoyance? Et là, on commence à s'intéresser un peu à ça, on commence à prendre connaissance des études qui sont menées depuis les années 1920, notamment par celle entreprise par J.B. Rines à l'Université de la Caroline du Nord, hein, l'Université Durham en Caroline du Nord. Hein, il était associé à l'université. Et donc, on prend connaissance de ses travaux, on prend connaissance également des autres travaux qui ont été menés ailleurs aux États-Unis, et principalement une agence qui s'appelle la Stanford, l'Institut de recherche Stanford en Californie. Et cet organisme-là s'est beaucoup intéressé à ces phénomènes psychiques. Donc, on prend contact avec eux. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de vrai? Et là, à l'Institut, on dit, ben voilà, on mène des recherches là-dessus et on va sélectionner, en fait, deux des parapsychologues qui sont également des physiciens, un type qui s'appelle Russell Targ et Al Potoff. On va les sélectionner. Ils vont devenir un peu des sources d'informations auprès des services de renseignement. Et on va commencer à mener des premiers types d'expériences. Dans un premier temps, on va faire appel à deux personnes qui ont la réputation auprès du Centre de recherche Stanford en Californie, qui ont la réputation d'être des sensitifs, donc des gens qui ont ces habiletés psychiques extraordinaires et qui utilisent une technique. À ce moment-là, évidemment, les services de renseignement ne savent rien de ça. Hein, ils se mettent au parfum en communiquant avec les experts. Et là, on leur explique qu'une technique, probablement c'est cette technique qui intéresse sans aucun doute les Soviétiques, c'est le remote viewing. Ce remote viewing, on explique aux services de renseignement, hein, toujours par l'entremise de Russell Targ et Al Potoff, on leur explique que c'est la capacité d'un individu de projeter sa pensée ailleurs. Un peu ce qu'on pourrait appeler dans le langage mystique ou ésotérique les voyages astraux. Là. Donc, il sort de son corps, va ailleurs et voit ce qui se passe ailleurs, sauf qu'il n'y a pas besoin d'être dans un état de sommeil ou un truc comme ça. Il peut le faire à volonté. Donc, on est intéressé. Et là, ce que je vais te raconter, c'est tout à fait vrai. Hein. Ça semble sorti d'un livre de science-fiction, mais je t'assure, c'est tout à fait vrai. Et ces documents, depuis 1995, ont été rendus publics. C'est des milliers de pages de documents. Donc, ce qui suit est tout à fait authentique. On fait donc appel, dans un premier temps, on va en fouillant, en questionnant les gens de l'Institut de recherche Stanford. On lui dit, avez-vous des noms à nous conseiller? Puis on lui dit, oui, il y a deux types en particulier qui ont très bien performé. Il y a un type qui s'appelle Ingo Swann, qui est un artiste de New York, et l'autre est un policier, un dénommé Pat Price de Californie. Et on dit, ces gens-là sont connus dans le milieu de la parapsychologie pour être des gens qui ont une espèce de sensibilité extraordinaire et qui sont capables de faire ce remote viewing. Alors, crois-le ou non, on va inviter à Fort Meade. Fort Meade, c'est au Maryland, c'est près de la capitale de Washington, D.C. Il y a là une grosse station, un gros centre de renseignement. Et ça tombe bien parce que la Defense Intelligence Agency, la DIA, la CIA et la NSA y ont des bureaux. Donc, hein, c'est merveilleux, tous les services de renseignement réunis dans un même édifice. Donc, on va faire venir un individu. L'individu, c'est Ingo Swann, c'est l'artiste de New York. Et là, on place Ingo Swann dans un bureau et on lui dit, OK, et on lui donne une carte topographique, donc une carte qui n'a aucun marquage, aucun nom, aucune frontière, vraiment comme si c'était une photo aérienne de rien du tout. Et on dit, donc, mais c'est une carte, et on dit, on met un X sur la carte, et on dit à Ingo Swann, qu'y a-t-il à cet endroit? Et Ingo Swann se concentre, et là, il commence à décrire des installations. Il entre dans les bureaux. Hein, il est assis dans le bureau à Fort Meade. Là. Il raconte, il dit, ben voilà, je suis dans un bureau, je vois un édifice, et là, il commence à décrire ce qu'il voit à l'intérieur de l'édifice. Il lit des noms qui apparaissent sur des portes, il va même dans une pièce, il peut même voir à l'intérieur d'un classeur des noms de dossiers qui figurent dans le classeur. À ce moment-là, la seule chose qu'il a sous les yeux, c'est une carte géographique, toponymique d'un endroit sans aucune frontière, sans nom, sans rien.
En vrai, tu me demandes comment il fait pour voir au travers du classeur.
Ouais, c'est ça. Et lorsque là, il donne ses informations, on prend ça en note, on dit bon, merci, Monsieur Ingo Swann, et les agents interrogateurs quittent la pièce. Et là, en faisant des recherches, en vérifiant avec leurs propres données, parce que eux savaient ce qu'il y avait là. Il y avait effectivement une base militaire américaine à cet endroit, mais qui, bien sûr, n'apparaît pas sur la carte. Et là, donc, en vérifiant à partir des informations données par Ingo Swann, on confirme effectivement qu'il y a des bureaux avec le nom de tel individu, puis il y a un classeur, puis qu'il y a des chaises rouges, puis bon, etc., etc. Donc, on fournit des informations qui vont convaincre les autorités des capacités, entre guillemets, extrasensorielles d'Ingo Swann. Et on vient de donner l'envoi à ce projet, un projet tout à fait ambitieux, extraordinaire, même invraisemblable, qui est le projet Stargate. Stargate, ça c'est le nom sous lequel on va regrouper l'ensemble des projets. Parce que là, évidemment, à partir du moment où il y a cette conviction... Je vais prendre une petite gorgée d'eau.
Oui, vas-y, Christian, depuis tantôt, t'arrêtes pas.
Donc, à partir de ces différents services, évidemment, on acquiert un peu cette certitude que l'on peut effectivement utiliser la parapsychologie, la voyance à distance pour faire de l'espionnage. Donc, bien sûr, chaque bureau veut avoir son unité spéciale. Et là, donc, on met de l'avant différents projets. Donc, des projets qui vont s'appeler avec des noms de plus exotiques les uns que les autres.
Faut que ça ait un nom
ouais, spécial. Le projet Grill Flame, le projet Sunstreak, bon, etc., etc. Tous ces projets-là, éventuellement, seront regroupés sous un grand nom parapluie qui s'appelle Projet Stargate et qui désigne un ensemble de voyants qui sont capables de faire de l'espionnage en se concentrant sur des lieux. Donc, à partir de là, le coup d'envoi est lancé. On va se diriger, évidemment, on ne passe pas une petite annonce dans le journal pour dire on veut recruter des voyants et des voyantes. C'est
non,
pas ça l'idée.
Ça sonne charlatan, là.
C'est ça. Comme c'est un projet ultra top secret, on fait circuler. Le projet se met très lentement en place. D'abord, dans un premier temps, on va vraiment engager Ingo Swann et l'autre, le policier Pat Price, qui vont faire des démonstrations tout à fait exceptionnelles de leurs habiletés, qui vont finir de convaincre les autorités de la réalité de cette perception extrasensorielle. Et donc là, parce que évidemment, il faut toujours garder qu'on a un peu en filigrane de tout ça, c'est l'idée de battre les Soviétiques avant qu'eux développent quelque chose. Donc, il faut aller plus vite que les Soviétiques. Donc, on va recruter au sein de l'armée. Il faut quand même se rappeler que on est au milieu, à la fin des années 60, début des années 70. On a à peu près, là, tout près de, entre 900 000 et 1 million de recrues au sein de l'armée. Donc, on fait passer une petite annonce, mais dans l'armée, du genre, connaissez-vous un de vos chums dans l'armée, dans votre bataillon, qui est extraordinaire, du genre, et si vous perdez vos clés, vous lui demandez, puis lui va dire, vos clés sont à tel endroit.
Ah oui, des mémoires photographiques.
Ouais, tu sais, on cherche un peu de même des gens qui ont comme la réputation au sein de l'armée d'être des gens qui ont des dons. Donc, c'est un peu ça l'idée. Connaissez-vous quelqu'un dans l'armée qui a des dons? Alors là, évidemment, il y a des noms qui vont apparaître. On va faire une sélection. Et plusieurs centaines d'individus, on découvre là, que dans toutes sortes de bataillons, il y a un type qui a toutes sortes de pressentiments. Lui, il sait d'avance. Ah oui, Bob, tu sais, si Bob dit que ça sent pas bon d'aller là, ben on est mieux de pas y aller parce que Bob, il y a comme un instinct pour ça. Donc, on fouille là-dedans. On va recruter. Donc, c'est plusieurs centaines de militaires qui vont se retrouver comme candidats. Et éventuellement, on va dégraisser tout ça. Puis on va se retrouver avec à peu près 230 personnes qui sont des gens qui, en laboratoire, dans différents tests, ont démontré leur habileté extraordinaire à faire de cette capacité de voir à distance, ce remote viewing. Donc, à partir de là, le projet Stargate se met en place. Il va se développer entre deux pôles. Un qui est Fort Meade, qui se trouve, là, comme je l'ai mentionné, au Maryland, et l'autre est à l'Institut de recherche Stanford, en Californie, toujours sous les directives de ces deux parapsychologues, Russell Targ et Al Botoff, qui vont faire les expériences. Et rien que pour te donner une idée, là, quelques chiffres, ils vont mener au-delà de plus de 154 séries d'expérimentation. Ils vont utiliser pour au total 227 sujets sensitifs. Ils vont faire 26 000 essais. C'est énorme, là.
Eh ben oui.
26 000 essais. Et les essais sont faits de manière à, évidemment, tu comprends que si tu lances une pièce de monnaie en l'air, elle a 50% de chance de tomber sur face ou 50% de chance de tomber sur pile. Dans le cas du projet Stargate, on calcule pas les résultats de cette manière-là. On les calcule comme étant l'information qui a été transmise, est-ce qu'elle est significative, peu significative, très significative, ultra significative. Et généralement, lorsque l'on fait ces essais, ben, les résultats vont, si on parle, une unité en particulier qui représente à peu près 30 voyants, des voyants ou des sensitifs, une trentaine de voyants, on va obtenir des résultats qui vont du très significatif à l'ultra significatif. Alors, ces gens-là vont être capables de décrire des choses, puis à ce moment-là, évidemment, on le sait pas. On demande, on a vu des activités, par exemple, du côté de la Russie à tel endroit, on a vu des mouvements de troupes, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a? Et puis là, les sensitifs vont donner de l'information, et à partir de cette information-là, les Américains vont se mettre sur le coup, vont envoyer des avions espions, et à partir de là, on va pouvoir déterminer l'information qui avait été transmise, est-ce qu'elle était significative, très significative, et dans bien des cas, on va découvrir sur la foi des informations transmises par les sensitifs, on va découvrir une base de missiles, on va découvrir une base de construction de sous-marins. Si on consulte les documents du Stargate aujourd'hui, on est frappé de l'acuité de certaines informations. J'ai en tête, par exemple, un des super sensitifs du projet Stargate, un type qui s'appelait Joseph McMonagall, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années et qui avait fourni pour les renseignements américains durant cette guerre froide. Là, on est au milieu des années 70. Des dessins de bases de sous-marins de type Typhon qui étaient développés par les Soviétiques. C'est les dessins comparés aux photographies aériennes qui ont été prises par la suite par les avions espions américains, sont tout à fait extraordinaires. Parce que, tu sais, c'est pas simplement dire, il y a un mur bleu puis un escalier. Des murs bleus puis des escaliers, il y en a partout. Ouais. Il faut que l'information soit beaucoup plus importante, beaucoup plus significative que ça. Donc, on a fait, comme je l'ai mentionné, au-delà de 26 000 essais. La gradation allait de peu significatif à ultra significatif. Et donc, durant ce qu'on sait aujourd'hui, durant ces années du projet Stargate, les voyants ont réussi notamment à localiser des tunnels en Corée du Nord. Ils ont localisé Muammar el-Kadhafi avant le raid aérien des forces armées américaines en 1986 sur la Libye.
Okay.
Ils ont notamment trouvé des sites nucléaires et des missiles Scud durant la guerre du Golfe en 90. Ils ont permis de retrouver des personnes disparues, dont notamment, et là c'est là qu'on l'apprend en lisant les documents du projet Stargate, ils ont notamment localisé l'endroit où était détenu le brigadier général James Dozier qui avait été enlevé par les Brigades Rouges en Italie. Donc, c'est une information qui venait de ces voyants-là qui a été transmise aux autorités italiennes qui ont permis de récupérer James Dozier sans qu'il y ait d'effusion de sang.
Ah ouais, mais comment les gens qui ont été les sujets auxquels on a mené des tests comment je pourrais dire, c'est pas de la télékinésie là, mais je fais le parallèle quand on regarde Stranger Things, Christian, tu sais, Eleven là, la petite fille quand elle essaie de bouger des choses avec sa pensée, tu sais, elle vient avec du sang qui lui coule du nez. Est-ce que ces sujets-là ont décrit des symptômes physiques de au moment de leur recherche photographique, là? Je sais pas comment décrire ça. Là.
Non, si ce n'est l'épuisement.
OK, tu sais, ils deviennent très fatigués après.
Quand, si on prend par exemple, je vais parler de Joseph McMonagall que j'ai rencontré, donc j'ai ce que lui me racontait.
Je pensais que tu allais dire j'ai son cellulaire.
Ouais, c'est ça. Donc lui, lorsqu'il faisait ces essais-là, il disait, on nous mettait dans une petite pièce très isolée, donc une forme de privatisation sensorielle. Donc on est dans une semi-obscurité, une lumière très tamisée. Et là, on va nous donner des informations, soit des coordonnées géographiques, une latitude, une longitude, et on se concentre sur ces chiffres. Ça peut être aussi une simple photographie ou une carte, et on se concentre là-dessus. On se ferme les yeux, évidemment, puis on laisse entrer les images. Et au fur et à mesure où les images viennent, c'est un peu comme si notre main était guidée, puis on écrit des informations, murs, escaliers, corridors, puis là, peu à peu, ces informations prennent vie et vont former un tout. Et après, généralement, on y allait par des périodes de 2 heures, et McMonagall me disait, après une période de 2 heures à faire ça, évidemment, lui se sentait s'était vidé. Est-ce que c'était la même chose auprès de ses collègues? J'imagine que oui. Hein.
Okay.
Quand lui me parlait de ça, il, évidemment, il côtoyait les autres voyants, entre guillemets, du projet Stargate. Donc, il semble que c'était à peu près commun chez tous ces gens-là. Donc, ça demandait une grande capacité, une grande force de concentration. Puis, évidemment, c'était épuisant de faire ça.
Un peu comme l'écriture automatique, en réalité, Christian.
Oui, oui, effectivement. Donc, les gens qui font de l'écriture automatique vont prétendre que ce sont des esprits, des revenants, des défunts qui guident leurs mains sur le papier pour qu'ils écrivent soit des mots ou fassent des dessins. Dans le cas de Stargate, il n'y a pas une intervention qui de cette manière-là qui se présente, mais c'est plutôt une série d'informations qui arrivent et qui que eux vont remettre sur le papier. Mais tout ça est lié directement à cette habilité de voir ailleurs. Donc, si les gens veulent dire, bon, s'ils veulent appeler ça de façon singulière des voyages astro, ben, appelons ça comme ça.
Okay.
Ils étaient capables, donc, de se projeter dans un autre lieu et de rapporter l'information qui était là. Le projet Stargate va prendre fin en 1995. Et pourquoi il prend fin? Parce que en 1995, donc ça fait quand même de nombreuses années, hein, le projet a été mis de l'avant fin des années 60, début des années 70, sans un statut officiel. Il devient un projet officiel des services de renseignement en 1973. Il va durer jusqu'en 1995, donc pendant une vingtaine d'années. Et le projet Stargate va être abandonné en 95, non pas parce que les résultats ne sont pas là, mais parce que les résultats sont inégaux. Donc, ce que l'on constate, c'est que sur le plan stratégique, tu ne peux pas monter une opération militaire sur la foi d'une information qui a été transmise par un soi-disant voyant.
Ouais.
Parce que, tu sais, parce que, il faut quand même le dire, dans des mesures de contrôle, on s'est quand même rendu compte que les voyants n'étaient pas toujours exacts. Hein, c'était pas 100% d'exactitude. Il y a des fois qui étaient complètement dans le champ. Donc, c'était sur, essentiellement sur le plan de la statistique. Ce qui semblait ressortir de la statistique, c'était, par exemple, 3 fois sur 5, ils ont de l'information qui est valable.
Parfait. C'est pas une bonne moyenne, 3 sur 5, me semble.
Tu dis, bon, 3 sur 5, ou bon, tu dis, si c'était monsieur et madame tout le monde, ça serait 2.5, tu sais, mais eux autres, c'est un petit peu plus, c'est 3, tu sais, c'est au 3, peut-être 4 fois. S'ils sont bien bons cette journée-là, ça peut être 4 fois sur 5, tu sais, ils vont donner une information valide, mais tu ne peux pas monter une opération militaire sur la foi de ça, parce que tu sais jamais l'information, elle est-tu bonne ou pas bonne. Tu déploieras pas un groupe de soldats qui vont arriver au milieu d'un champ et dire, il n'y a absolument rien ici. Ah, excusez-nous, notre voyant s'est trompé ce jour-là. Tu comprends? Donc là, on a un problème. Donc sur le plan stratégique, on trouvait qu'il y avait une faille là-dedans. Donc on a, à la fin du projet Stargate, les services de renseignement ont quand même demandé à 2 personnes d'évaluer les éléments statistiques du projet Stargate. Ça faisait quand même une vingtaine d'années que le projet courait. Il y avait ces fameux 26 000 essais qui avaient été faits par l'Institut Stanford. On s'est dit, y a-t-il quelque chose là-dedans? Qu'est-ce qui est valide ou non? Et on a donc confié l'ensemble des dossiers du projet Stargate. Ben, tu comprends bien, quand je dis l'ensemble des dossiers, c'est essentiellement les chiffres.
Ouais.
On donnait pas d'informations, disons, top secret. Donc, on avait recruté 2 personnes, Jessica Hutz, qui est une professeure de statistiques à l'Université de Californie, et un type qui s'appelle Raymond Hyman, qui est un professeur émérite de psychologie à l'Université de l'Oregon. Pour te les définir, il faut quand même te dire que Jessica Hutz, professeure de statistiques, elle est plutôt favorable à l'idée, elle est toujours vivante, elle était favorable à l'idée de la perception extrasensorielle. Donc, elle partait avec une vision beaucoup plus positive. Hyman, lui, faisait partie de l'Association des sceptiques américains, qui, à l'époque, s'appelait le CSICOP, le Committee for Scientific Investigation of Claim of Paranormal, qui aujourd'hui a changé de nom, qui s'appelle le CSI, le Committee for Skeptical Inquiry.
Okay.
Donc, on change, puis CSI, ça fait beau, hein, parce que ça nous rappelle la police scientifique aux États-Unis. Là.
Oh oui, ça fait
CSI,
une
lunette
noire.
On est parti CSI, mais en réalité, c'est le Comité des sceptiques américains. Donc, Hyman, lui, c'est rien de tout ça est vrai. C'est toujours de la foutaise. Hein. C'est un...
D'un extrême à l'autre, hein, Christian?
Oui, d'un extrême à l'autre. Et je te dirais même que dans le cas de Jessica Hutz, même si elle partait croyante, elle n'est pas une illuminée qui croit à tout. Là. Tu sais, qu'elle n'ira pas se mettre tout nu en feuille de lotus chez eux en espérant canaliser les énergies du cosmos. On n'est pas là, là. Elle est professeure de statistiques. Elle est, oui, favorable à l'idée de la perception extrasensorielle, mais de manière quand même posée. Alors que Hyman, c'est vraiment un nihiliste. Vraiment, c'est lui. Rien de ça est vrai. J'ai même été surpris de voir que les services de renseignement avaient fait appel à Hyman. Néanmoins, ces deux personnes-là ont été recrutées par les services de renseignement. On leur a remis donc les données statistiques qui avaient été établies par l'Institut Stanford durant cette longue période là de l'existence officielle de Stargate, donc de 1973 à 1995. Et les deux donc ont regardé ça avec bien sûr des connaissances scientifiques. Ce sont toutes les deux des professeurs aguerris à ce travail-là. Et les deux, hein, même Hyman, le très très sceptique, reconnaît qu'il y a une anomalie statistique. Donc Jessica Hutz, la première, dit ben voilà, moi en tant que professeur de statistique, je vous dis que c'est pas normal. Les gens que vous avez utilisés, ces voyants-là, ont donné de l'information significative et très significative beaucoup plus souvent que monsieur et madame tout le monde l'aurait fait. Donc, il y a une anomalie statistique. Donc, autrement dit, si on lance notre pièce de monnaie en l'air, si tu la lances 1 million de fois, c'est sûr que tu vas avoir tu peux tomber sur une séquence chanceuse, puis tu vas tomber 9 fois sur pile, puis 1 fois sur face.
Ouais.
Mais si tu le fais 1 million de fois, ça va s'équilibrer, ça va devenir 50-50. Donc, dans le cas de nos voyants de Stargate, avec leurs 26 000 essais, ben, on était au-delà de la moyenne. Là, on n'était pas à 50%, mais on était à 60-65%. Donc, c'est au-delà de la moyenne du commun des mortels. Donc, Jessica Hunt dit, voilà, il y a une anomalie statistique, il y a quelque chose qui se passe. Pour Jessica Hutz, cette variante, cette anomalie statistique est la preuve de la perception extrasensorielle. De son côté, tu comprends que Raymond Hyman n'a pas été aussi loin. Pour Raymond Hyman, il reconnaît, ça c'est un peu amusant, hein, parce qu'on reconnaît la position du sceptique, il dit c'est vrai qu'il y a une anomalie statistique. C'est vrai que c'est pas normal que ces gens-là aient donné autant d'informations qualitatives de cette manière-là.
Mais,
il doit y avoir un problème au niveau de l'expérimentation ou de la collecte des données. Mais tu comprends, il y a quelque chose qui marche pas, mais je sais pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose qui marche pas. T'sais, donc, c'est un peu la position d'Hyman. Oui, il y a des anomalies statistiques, mais évidemment, avant de reconnaître que ça peut être la preuve de la perception extrasensorielle, il suppose qu'il y a probablement eu des erreurs dans la façon dont on a colligé les données ou la façon dont les expériences étaient menées qui ont donné une impression de positive plus grande que l'était en réalité la performance des voyants. Quoi qu'il en soit, les deux reconnaissent qu'il y a une anomalie statistique qui semble bel et bien en faveur de la perception extrasensorielle de ces gens, de ces sensitifs qui ont été utilisés par le projet Stargate. Mais à partir de là, une fois qu'on a reconnu ça, les autorités donc ont mis fin au projet Stargate en 1995. Autant la CIA, la DIA ou la NSA, ils ont mis fin au projet Stargate de manière officielle. Parce que, il faut le dire, les voyants utilisés par le projet Stargate n'ont pas été tenus au secret après le projet. Donc, à partir de 1995, quand ils sont retournés à la vie civile et que le projet Stargate a été rendu public, ils ont pu raconter leur histoire. Plusieurs d'entre eux ont écrit des ouvrages dans lesquels ils racontent tout leur cheminement à l'intérieur du projet Stargate. Évidemment, ils sont tenus au secret pour ne pas révéler des cibles précises ou d'informations.
C'est ce que je me demandais, jusqu'où pouvaient-ils aller
dans
leur... C'est
ça, donc des éléments de secret d'État. Donc souvent, quand on lit ces ouvrages-là, ils vont nous raconter, bon, on a fait une cible, la cible, appelons-la rouge, et la destination bleue. Bon, ils vont utiliser d'autres mots, d'autres éléments pour un peu brouiller les cartes, mais ils racontent un peu leur expérience. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Joseph McMonagall, hein, l'un des sensitifs que j'ai rencontré, ben, il s'est fait connaître, hein, parce qu'il était un des tout premiers à écrire un ouvrage dans lequel il a raconté son expérience au sein du projet Stargate. Mais je sais, de façon certaine, que certains agents de Stargate continuent aujourd'hui de travailler en sous-traitance, entre guillemets, pour les services de renseignement américains. Donc, certains d'entre eux sont recrutés par la CIA, la DIA, la NSA, pour faire utiliser leur voyance pour fournir de l'information, même si on n'est pas dans le cadre d'une expérience ou d'un projet parfaitement établi au sein du département de la Défense ou de tout autre département du renseignement. Donc, ces gens-là continuent, d'une certaine façon, sous la couverture, à fournir ou à travailler de concert avec certaines agences de renseignement. Mais officiellement, le projet Stargate s'est arrêté en 1995. La raison première pour laquelle le projet Stargate s'est arrêté, c'est à cause de l'inefficacité de manière soutenue de cette voyance-là. Hein?
Donc, ouais, comme tu as dit, résultats inégaux. Donc,
voilà, donc les gens n'étaient pas capables de donner. Si on voulait essayer de monter une opération, ben on sait qu'ils réussissaient 3 fois sur 5 ou 4 fois sur 5 à donner de l'information valable, mais si on aurait monté une opération puis on était tombé malheureusement sur la foi où ils étaient complètement en dehors de la traque, on se serait dit, mais maudit, on n'aurait pas dû faire ça. Ça a pu coûter la vie à quelques soldats ou ça a coûté une opération qui a coûté des millions, et tout ça sur la foi de la voyance. On s'est dit, on est mieux de pas faire ça. Donc, finalement, le projet Stargate a été éliminé, même si certains agents, comme je t'ai dit, continuent de fournir de l'information. Mais bien sûr, cette information-là, elle est considérée non pas comme la source première, mais une source de confirmation. Donc, à partir des informations que transmettent ces agents-là, ça va un peu comme rétrécir les recherches. Donc, les gens de la DIA ou de la NSA qui enquêtent sur tel ou tel individu ou sur tel ou tel trafic, par exemple des cartels de drogue. Je sais qu'un des agents du projet Stargate a été impliqué dans la recherche avec l'Agence des narcotiques aux États-Unis, le NTSB. Non, pas le NTSB, c'est le tabaco, quelque chose. En tout cas, bon, c'est l'ATF, c'est ça. Donc, avec l'ATF, il a travaillé avec l'ATF pour essayer de déterminer des chemins empruntés par des cartels pour faire entrer de la drogue aux États-Unis. Donc, il a travaillé avec eux, fournissant de l'information. Donc, ça ciblait. Donc, à partir du moment où il disait, voilà, les avions suivent tel ou tel trajet, passent par tel ou tel endroit à partir de cartes, puis ici ou là, il y a des dépôts où vous allez retrouver, par exemple, d'importantes cargaisons de cocaïne. Ben là, évidemment, les agents de l'ATF pouvaient, à ce moment-là, cibler ces endroits-là plus précis pour déterminer si oui ou non l'information était valide ou non. Plutôt que de chercher partout et nulle part, on avait quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, à partir de là, le projet Stargate s'arrête en 95. Les autorités disent on ne peut pas monter des opérations stratégiques et militaires sur la foi d'informations transmises par ces fameux voyants. Mais compte tenu des résultats obtenus, compte tenu des rapports transmis par Jessica Hutz, cette professeure de statistique, et Raymond Hyman, qui tous deux reconnaissaient, hein, Hyman le sceptique, qui reconnaissait tous les deux qu'il y avait des anomalies statistiques. Le département de la Défense et les services de renseignement ont dit, ben maintenant, ce n'est plus, comme il n'y a pas une valeur stratégique à ça, ce n'est plus au département de la Défense ou au service de renseignement de s'intéresser à cette perception extrasensorielle, mais c'est plutôt à la communauté scientifique, si eux sont intéressés, de prendre le relais. Et inutile de dire qu'il n'y a pas eu de prise de relais, parce que la grande problématique... Non, malheureusement, on avait tout le matériel sous la main. Moi, je dois t'avouer là, qu'il était impliqué dans ce sujet-là du paranormal en 95. C'est une grande déception pour moi. En 95, quand le projet Stargate a été publié, quand on a pris connaissance des rapports, ceux qui avaient été remis par exemple par Jessica Hutz et Raymond Hyman, qui confirmaient les anomalies statistiques, moi, j'étais vraiment convaincu qu'on était à un tournant de la parapsychologie, que la communauté scientifique s'intéresserait à ce projet-là, parce que, bon, on avait quand même plus de 20 ans d'investissement en argent, en temps et en ressources humaines.
Qu'on a mis dans le feu.
Ouais, pour documenter cette perception extrasensorielle. On connaissait le nom des gens qui avaient été utilisés, hein. Ingo Swann était encore vivant. Pat Price est décédé, malheureusement. Le policier, là, il est décédé dans l'écrasement d'un avion. Mais Ingo Swann, lui, était encore vivant. Il est décédé il y a quelques années seulement. Et je pense à d'autres, hein, Joseph McMonagall, que j'ai rencontré, qui est toujours vivant. Donc, ces gens-là étaient disponibles pour mener de la recherche, pour poursuivre, mais il n'y a pas eu de prise de relais par la communauté scientifique, ce qui est un peu, quelque part, c'est décevant, mais en même temps, c'est normal, Parce que faut toujours se rappeler que la première recherche d'un scientifique n'est pas la vérité avec un grand V, mais la recherche de sommes d'argent pour faire de la recherche. Il faut que tu trouves des fonds pour faire de la recherche. Et malheureusement, dans le domaine de la recherche, toutes catégories confondues, là, bien sûr, il y a de la recherche pure. Là, tu cherches des étoiles, puis le cosmos, là, c'est autre chose. Là. Mais généralement, donc on a des cas d'exception en recherche pure, mais généralement, les organismes subsidiaires, donc les organismes qui fournissent de l'argent pour la recherche scientifique, ce sont souvent des organismes qui attendent quelque part une retombée de l'investissement. Quand tu penses, par exemple, que développer un médicament, ça coûte grosso modo, là, au bas mot, 800 millions de dollars. Donc, on parle, si on part à zéro, on dit, ben voilà, on a la maladie d'Alzheimer, ben ça va coûter au bas mot pour mettre des chercheurs là-dessus pour essayer de trouver un médicament. Grosso modo, si on regarde l'ensemble des médicaments qui ont été trouvés, puis ça se peut qu'on n'en trouve jamais de médicaments, mais dans plusieurs cas, si on fait une statistique, ça coûte autour d'à peu près 800 millions de dollars développer un médicament. Donc, tu comprends que les organismes qui vont fournir de l'argent veulent éventuellement pouvoir profiter de ces brevets de la recherche. Et de la recherche, si je vais te donner un exemple assez simple, si tu as deux scientifiques de niveau égal, l'un propose une recherche sur la parapsychologie, la perception extrasensorielle, et un autre propose une recherche sur la mousse verte, ses crotons, ben c'est la mousse verte, ses crotons qui va gagner. Ouais. Parce qu'avec la mousse verte, ses crotons, tu vas peut-être développer quelque chose, un médicament, une pilule quelconque, peu importe, qui va rapporter de l'argent, qui va faire sonner les caisses. Mais faire de la recherche en parapsychologie sur la clairvoyance, la perception extrasensorielle, ben à court terme, je vois pas de quelle manière on pourrait rentabiliser ce genre de recherche-là, si ce n'est par la connaissance elle-même, un peu comme l'astrophysique où on regarde les étoiles, ça rapporte pas de l'argent de savoir qu'il y a 26 lunes autour de Jupiter ou 26 lunes autour de Saturne.
Je comprends ton point, même quand il y a des vies humaines derrière ça, parce que tu as parlé tantôt que ça a été utilisé même pour retrouver des personnes disparues, mais rendu là, c'est un coup de dé, hein? Il y a rien, mais il y a rien qui prouve que ça peut être une science parce que la science n'a pas enquêté là-dessus et la spirale tourne, pas de financement. Ah, c'est
pas facile. Non, puis il y a un débat, hein, parce que même si, là, je te présente ça de manière plutôt positive, le projet Stargate, mais il faut savoir que en même temps que le projet Stargate a été publié, que les résultats ont été connus, il y a eu un mouvement, une résistance de la part d'associations sceptiques ou d'une communauté scientifique qui se sont inscrits en faux consent, en disant non, tout ça est de la foutaise, il faut revoir la façon dont ça a été fait. Il y a sûrement une passe-passe quelque part qu'on n'a pas vu, qui fait que les résultats étaient tronqués. Exactement le point de vue défendu par Raymond Hyman. Donc, on se trouve dans une situation où il y a controverse. Hein, c'est « c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est-tu positif, pas positif? » Parce que la seule chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'était de dire « il y a une anomalie statistique ». Mais pour le reste, si Jessica Hutz dit « c'est sûr que c'est la preuve qu'il existe une perception extrasensorielle », c'est loin de faire l'unanimité. Et la plupart des scientifiques ne sont pas très intéressés de se trouver dans un débat comme celui-là. Ensuite de ça, faut pas se le cacher, je l'ai souvent évoqué, encore la semaine dernière, je t'en parlais, le domaine de la recherche en parapsychologie flirte dangereusement avec le milieu de la religion.
Hein, ouais.
Que je communique, que je vois une base militaire soviétique quelque part aux îles Sakhaline, ou que je vois des anges assis sur des nuages, c'est de la vision pareille. Là. C'est rien que les termes qu'on utilise qui sont un peu différents. Là.
À moins d'avoir une méga grosse mémoire photographique, ça arrive, mais là, l'explication meurt et tombe quand tu essaies de justifier que la personne a vu quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa sainte vie.
Oui, c'est ça. Dans le cas des agents de Stargate, ils fournissaient de l'information qui était tout à fait nouvelle.
Là,
souvent, ils ne savaient même pas ce qu'ils regardaient. Hein. Moi, par exemple, McMonagall me disait, je recevais une carte. J'avais une carte devant moi. Je voyais seulement que c'était comme une région boisée avec des montagnes. Mais j'ignorais si c'était un lieu aux États-Unis, si c'était en Chine, en Union soviétique ou en Afrique. Là, j'avais aucune idée. Et je me concentrais là-dessus et je donnais l'information que je ressentais, que je voyais. Je regardais une carte. Là, d'un coup, tu te mets à voir des éléphants. Ben, tu te doutes. Tu te dis, ben là, ou bien je me suis trompé, ou bien je fantasme, ou bien quelque part, cette carte-là a dû être prise. Elle doit représenter un lieu en Afrique.
Un safari.
Tu sais, si vous voyez des éléphants, là, on n'est certainement pas à Québec. Bon. Tu sais, tu comprends, on a des situations comme celle-là. Mais Il y a tout un débat autour de ça. Et comme la parapsychologie flirte avec le milieu du religieux, ben évidemment, il y a encore là un élément qui est déstabilisant et qui fait que la communauté scientifique va un peu prendre du recul par rapport à tout ça. Bref, le projet Stargate n'a jamais eu de relève. Il a été publié en 1995. Les résultats sont accessibles. La documentation, elle est disponible également. Il suffit d'aller sur les sites Internet des services de renseignement, là, que vous alliez sur celui du FBI ou de la CIA. Vous allez dans les sections, les onglets qui sont de l'information rendue publique, entre guillemets déclassifiée, et vous allez pouvoir télécharger tous les dossiers du projet Stargate. C'est des centaines, sinon des milliers de pages de documents qui concernent le projet depuis sa création officielle en 1973 jusqu'à sa fermeture en 1995. Vous allez retrouver là-dedans tous les dessins des documents qui ont été fournis par les sensitifs. Certains, bien sûr, sont censurés pour dissimuler des noms ou des lieux, mais ça nous permet de nous plonger dans cette fascinante expérience qui a été menée pendant 20 ans et qui, malheureusement, n'a pas eu de suite positive comme on l'aurait pu souhaiter. En tout cas, à tout le moins, les gens qui s'intéressaient au phénomène de la parapsychologie, on aurait voulu qu'il y ait une relève, mais cette relève-là ne s'est pas produite.
La science et la technologie, Christian, va nous permettre de rouvrir ces livres-là un jour.
Ouais, j'espère bien, parce que pour moi, l'opération, le projet Stargate, les résultats obtenus, l'information transmise. Moi, je suis un individu, puis je pense que les auditeurs le savent, je suis un individu qui est plutôt sceptique par rapport à toutes ces histoires-là. Mais j'avoue que en prenant connaissance du programme Stargate, en lisant, bien sûr, les ouvrages qui ont été publiés par différents agents, et en consultant la documentation officielle rendue publique par les services de renseignement, c'est des trucs qui m'ont assez ébranlé. Donc, je suis pas prêt à dire que ces gens-là ont vraiment des habiletés extraordinaires. C'est peut-être des coïncidences fantastiques, mais j'avoue que j'ai un petit doute. Il y a quelque chose dans le projet Stargate qui m'a pratiquement convaincu de la réalité de la perception extrasensorielle. La problématique, bien sûr, c'est de pouvoir reproduire ces expériences en laboratoire de manière soutenue, ce qu'on aurait pu souhaiter avec la fin du projet Stargate, puisqu'on avait déjà des balises qui nous avaient été données, des sujets qui nous avaient été identifiés, mais il n'y a pas eu de relève.
Excellent. Christian, tu voulais qu'on se laisse avec une autre bande-annonce, le Suspect oui. Zero. Qui est-ce?
C'est ça, le Suspect Zero. Donc, c'est un film qui reprend un peu l'idée du projet Stargate, mais le après Stargate. Donc, dans ce film, Suspect Zero, on retrouve... Bon, c'est un film qui date de 2005, je crois. Et dans Suspect Zero, on retrouve Ben Kingsley, Aaron Eckhart, puis Carrie Ann Moss. Et Ben Kingsley joue là-dedans un ancien agent des services de renseignement qui travaillait pour un projet, dans le film, on l'appelle le projet Icarus, mais il suffit de connaître un peu la thématique pour savoir que Icarus, c'est le projet Stargate. Okay. Donc, on nous dit, voilà, c'est un agent de Stargate. Et une fois démobilisé des services de renseignement, il va utiliser ses dons de voyage pour traquer un tueur en série à travers les États-Unis.
J'aime ça.
Parce que dans les histoires de tueurs en série, comme à peu près tout le monde qui a lu un peu sur le sujet, les services de renseignement, le FBI en particulier, croient qu'il pourrait y avoir une dizaine de tueurs en série actifs sur les autoroutes des États-Unis. Donc, d'un point A à un point B. Donc, c'est pourquoi, par exemple, on trouve une victime en Californie, puis ensuite, on va retrouver une victime avec à peu près le même modus operandi. Mais on va le retrouver en Arkansas, par exemple.
Beaucoup de victimes d'autostop.
Voilà, donc on croit que des tueurs en série pourraient utiliser le réseau des autoroutes aux États-Unis. Donc, ils pourraient être des camionneurs qui commettent des crimes comme ça en passant d'un État à un autre. Donc, dans le film Suspect Zero, Ben Kingsley joue cet ancien agent du service de renseignement, projet Icarus, qui utilise ses dons de voyance pour traquer ce tueur en série à travers les États-Unis.
Super, on se laisse avec cette bande-annonce de 2 minutes. Et Christian, merci. Bon, début de semaine à toi. On reprend ça demain.
Absolument.
Avec la thématique. Est-ce qu'on est dans les théories du complot demain?
Demain, mystère historique.
Excellent. Bonne soirée à toi.
Toi aussi. Ciao.
Bye-bye.
This guy fits the bureau's profile to a T. Inconspicuous, covers his tracks, never leaves a witness. So how did Orion find him?
before we did.
And you know, I was right about you, Harold.
Next off-ramp, pull into it.
Why?
Because I wouldn't want to do this at 70 miles an hour.
Wounds indicate he was strangled from behind.
After an extensive search of Harold A. Speck's property, we found the remains of 9 people. This man is targeting serial killers.
You're telling me this guy picks off scumbags. Do you realize how insane that is?
What if it isn't?
Special Agent Benjamin O'Ryan.
He's FBI. You ever heard of a project called Icarus? It's agents trained to see distant locations using nothing but the mind. They call it remote viewing. They use it to track down serial killers.
Remote viewer to commence in 3, 2, 1.
We did it right, you got it all. The way it sounded, the way it smelled. We saw things men shouldn't see. Agony, evil, darkness. We were plugged right into it. That's when we lost it. No one taught us how to turn it off.
Imagine a serial killer that could cross the entire country without ever getting caught. Someone called Suspect Zero.
I think we've got an obsessive compulsive here.
What if there really is a Suspect Zero and Orion is the one guy who's got a shot at him?
I'm worried about you.
All right, on the edge of this thing, come on.
How do we know he isn't the guy?
Could Orion be Suspect Zero?
I don't think you're gonna know until you find Orion.